Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et très bonne année à chacun. Merci également de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Notre invitée est Anne-Clémentine Larocque, analyste historienne pour la justice, spécialiste de l'idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales. Son dernier livre, Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam, paru aux presses universitaires de France. Bonjour Anne-Clémentine Larocque.
Bonjour.
L'année 2021 a été marquée par le 10e anniversaire des printemps arabes, la victoire des talibans en Afghanistan, considérée comme sienne par Al-Qaïda, qui se veut l'incarnation du djihad international et qui s'est transformée au fil des décennies en actrice de plusieurs insurrections à travers le monde, notamment dans la région du Sahel. Le début à Paris du procès des attentats du Bataclan en 2015, lequel procès se poursuit en 2022. Également la remise en question de la présence française au Sahel et puis cette montée de l'extrémisme hindou en Inde, pays qui s'affiche pourtant laïque et multiconfessionnel. Alors Joe Biden, le président américain, parle d'une menace terroriste qui a métastasé dans le monde entier, bien au-delà de l'Afghanistan. Menace d'Al-Shabaab en Somalie, des réseaux d'Al-Qaïda en Syrie et dans la péninsule arabique et de l'État islamique qui tente toujours de créer un califat en Syrie et en Irak et d'établir des réseaux en Afrique et en Asie. Quel état des lieux, Anne-Clémentine Larocque, peut-on faire en ce début 2022 du djihad mondial ?
Alors effectivement, Joe Biden évoque le terrorisme, et moi je préciserais que s'il s'agit du terrorisme islamiste, donc qu'on voit comme djihadiste hein, au travers des différents événements en lien avec le djihad armé, en réalité l'idéologie islamiste progresse davantage encore que eh bien, les actes de djihadisme et les actes de terrorisme que l'on peut relever. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte depuis 2015 qu'on n'a jamais eu autant de combattants, si vous voulez, dans le cadre du djihad armé, dans les différents territoires du monde. Il y a une progression qui est évidente. Si on regarde par exemple l'Afrique subsaharienne, avec une progression importante au Mozambique, en Ouganda, une présence de l'État islamique justement en Afrique de l'Ouest d'abord et en Afrique et au Sahel, qui va aussi se commuer en Afrique australe. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des cellules qui vont progresser, des individus qui vont être séduits par le label État islamique, qui, malgré la défaite de Barouz en 2019 au niveau du proto-État territorial de l'État islamique, donc en Syrie et en Irak, eh bien, continue de plaire, continue effectivement d'avoir des adhérents en Afrique subsaharienne, on l'a dit, en Asie également. Les attentats du Sri Lanka sont là pour le prouver. On n'avait jamais eu d'attentat au Sri Lanka et ça a été le cas il y a 3 ans, pour Pâques, on s'en souvient. En Asie du Sud, la présence de la Jemaa Islamiya, qui est en lien avec Al-Qaïda, est tout à fait encore d'actualité. La présence de l'État islamique aux Philippines existe aussi et demeure aujourd'hui vraiment un front de rébellion et d'insurrection vis-à-vis de l'État philippin. Enfin, on a de multiples exemples, en fait, au travers du monde qui montrent une progression. Évidemment, en Afghanistan et au Pakistan, avec cette emprise, cette lutte d'ailleurs des talibans contre l'État islamique au Khorasan, qui tente de séduire des cellules qui sont actives actuellement en Asie centrale, au Tadjikistan par exemple, au Kirghizistan ou au Kazakhstan. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il faut admettre, regarder avec lucidité. Effectivement, l'idéologie islamiste progresse, l'idéologie djihadiste a encore effectivement quelques années devant elle, je le pense, dans la mesure où une restructuration aussi du discours, une adaptabilité quand même évidente de cette idéologie est en marche.
Alors on va parler de tout cela bien sûr, cette progression de l'idéologie djihadiste avec ce que vous évoquiez, elle continue de plaire. Qu'est-ce qui plaît fondamentalement et pourquoi ce succès, Anne-Clémentine Larocque?
Oui, on pourrait rire, certains rient, vous voyez, du fait que, par exemple, une personne qui soit bretonne et qui s'appelle Jean-Michel puisse être effectivement séduite par un calife qui serait effectivement revenu des âges médiévaux, des âges anciens. Et on ne comprend pas, on a beaucoup ri de ça. Certains se plaisent à dire que c'est quand même extrêmement folklorique, complètement délirant de pouvoir penser comme ça. Or, si l'on regarde effectivement ce phénomène avec sérieux et avec humilité aussi, on doit se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a une vraie offre idéologique attractive au travers justement donc des structures salafistes, salafo-djihadistes et djihadistes. C'est-à-dire qu'en réalité, cette offre, elle rompt avec le système de valeurs occidentales et cette offre, elle permet aussi de se penser autre et différemment dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on peut changer, on peut se transformer, on peut se métamorphoser identitairement et on peut redevenir quelqu'un en fait au sein et dans le cadre de cette nouvelle idéologie. Donc il y a un fantasme hein, qui est un préalable justement à cette transformation bien sûr. Ce fantasme il est nourri par des grandes images que la propagande djihadiste, salafo-djihadiste alimente bien évidemment et on offre à ces individus qui sont nombreux tout de même à être en errance alors qu'ils ne sont pas effectivement... Il y a une minorité de djihadistes dans les islamistes évidemment, hein, je le répète, mais en réalité ils incarnent en tout cas toute cette extrémité du mouvement qui devient en fait finalement fer de lance, porte-drapeau, eh bien d'un phénomène qui touche beaucoup plus de monde que de simples djihadistes. C'est-à-dire que vous avez aussi tous ceux qui sont simplement salafistes ou frères musulmans ou tabliris qui veulent s'identifier à cette idéologie, plus qu'aux valeurs, par exemple, pour la France, plus qu'aux valeurs républicaines.
Alors, avant de parler de la France et de ce trou identitaire, qui est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, on poursuit peut-être quelques instants sur notre tour du monde des actions terroristes. Anne-Clémentine Larocque, les Nations Unies considèrent désormais l'Afrique comme la région du monde la plus impactée par le terrorisme. Est-ce que les groupes terroristes en Afrique représentent un danger pour l'Europe ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que contrairement aux groupes djihadistes qui étaient présents donc, sur le théâtre irako-syrien, il y a peu d'appels à des Européens à faire de leur hijra et à venir effectivement nourrir les rangs du djihad. En revanche, on a remarqué que depuis l'année dernière, l'équipe de Yad Agali, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, qui est une fusion depuis 2017 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le Sardine, du front Massina et d'Al-Mourabitoun, eh bien, appelle en fait à des actions contre l'Europe et notamment contre la France, puisque l'opération Barkhane a été évidemment diligentée par les Français. Donc on a un appel à une action, à des actions en Europe éventuellement. En revanche, effectivement, l'appel à des combattants, des moudjahidines, qui soient effectivement européens, est quelque chose qui fait moins partie justement de ces structures djihadistes, parce que précisément, c'est aussi un mouvement qui s'est ancré à partir du fonctionnement et des modalités en fait opératoires de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on va avoir un djihadisme qui va utiliser, instrumentaliser les luttes entre les différentes tribus, entre les peuples, les Iforas, et qui va justement donc être toujours très mouvant et donc qui s'adapte en fait à la population africaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Rien ne nous empêche de penser qu'effectivement, à terme, on pourrait peut-être avoir des appels à rejoindre effectivement l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le IJS, l'État islamique dans le Grand Sahara, ou, comme je viens de le dire, le GSIM. Boko Haram, les Chebabs sont aussi des groupes et des sous-groupes qui sont affiliés à ces structures. Mais il y a aussi une complexification finalement des choses, dans le sens où depuis que l'État islamique donc, s'est proclamé en 2014 en Syrie et en Irak, eh bien, vous avez à partir de 2015 une labellisation qui s'est élaborée en Afrique subsaharienne. Par exemple, Boko Haram, qui était proche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a pour une partie eh bien, quitté cette allégeance pour faire allégeance à l'État islamique dans le Grand Sahara. Les Chebabs, c'est pareil, ils sont quand même davantage, au niveau idéologique, plus proches des caïdistes, mais on voit que certains ont quitté, effectivement, pour aller vers le IJS. Donc il y a aussi une complexification des choses qui s'élabore par cette concurrence au sein du continent africain, et comme je le disais tout à l'heure, un approfondissement aussi des actions de ces groupes. Par exemple, encore une fois, au Mozambique, vous avez dernièrement eu l'enlèvement de 600 fillettes hein, qui ont été eh bien revendiquées par l'État islamique. Donc on a des actions de plus en plus nombreuses et de plus en plus spectaculaires aussi. C'est ce qui leur permet d'exister. Hein. Le terrorisme n'existe que par la spectacularisation et la médiatisation de ces actions. Et dans ce cadre-là, effectivement, eh bien, on peut se poser des questions sur ce continent africain qui est pris de paradoxe entre eh bien, des possibilités de développement importantes par rapport à des ressources très importantes et en même temps des écueils économiques et de développement que l'on connaît et au sein desquels eh bien, les groupes djihadistes eh bien, peuvent agir.
Alors dans ce contexte, Anne-Clémentine Larocque, quel regard portez-vous sur le retrait ou disons la réorganisation de la France sur place ?
Effectivement, depuis le 13 décembre, on sait que l'opération Barkhane au Sahel, le commandant de l'opération a annoncé depuis le 13 décembre un retrait et une réduction du contingent d'ici 6 mois à 3 000 soldats. Donc ce retrait, il prouve une chose, c'est que la France a besoin aussi d'alliés et de ne pas être la seule peut-être sur place à devoir gérer cette complexité et cette complexification. L'appel qui avait été fait par IBK en 2013 au président Hollande a été entendu, a été reconnu par la communauté internationale. On a quand même engagé nos moyens, nos ressources et nos valeurs sur le théâtre subsaharien. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la mondialisation du djihadisme a produit aussi des effets en Afrique subsaharienne. L'opération Barkhane a eu des effets aussi positifs vis-à-vis de certaines populations. Il y a quand même une autonomisation aussi de certaines armées, notamment d'armées maliennes, par rapport justement à ces djihadistes. Il y a une prise de position plus importante, la création du G5 Sahel, qui a été impulsée aussi par la France. La France n'avait pas vocation à rester ad vitam aeternam, évidemment, au Sahel. En revanche, effectivement, elle a dû être aussi pragmatique et rationnelle par rapport donc aux moyens déployés et aux résultats effectués. Alors, dernièrement, on a quand même eu plusieurs chefs qui ont été neutralisés par l'opération Barkhane, notamment le chef, à l'été dernier, le chef donc, de l'État islamique dans le Grand Sahara, qui était neutralisé, ce qui a porté quand même tout de même un coup à cette structure. Monsieur Droukdel, qui était quand même le chef légitime historique algérien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été aussi neutralisé en 2020. Bon. Vous avez plusieurs choses quand même qui comptent au niveau symbolique. L'opération Barkhane n'est pas un échec complet et cuisant. Il faut aussi relativiser, avec évidemment un engagement de la France qui reste quand même important au niveau du service action et des renseignements à venir. Donc, stratégiquement, la France restera sur place. En revanche, elle va rationaliser son effort.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, quelques mots, on reste en Afrique, Anne-Clémentine Larocque, alors sur Wagner, le groupe Wagner, l'organisation de mercenaires russes, avec ses accords conclus avec le gouvernement malien. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
C'est très clairement la démonstration, si vous voulez, de la volonté d'existence, de visibilité aussi aujourd'hui, parce qu'ils étaient moins visibles, mais présents auparavant, des Russes. Des Russes qui font de la contre-influence, qui agissent en Afrique subsaharienne pour préserver des investissements, mais aussi des stratégies d'investissement et évidemment préparer le futur, si je puis dire, avec des intérêts qui ne vont pas nécessairement dans le sens évidemment des opérations françaises. Dans ce cadre-là, on voit aussi que la mondialisation donc, agit évidemment au sein même du système de sécurité de l'Afrique subsaharienne. Et le gouvernement malien doit aussi se souvenir tout de même qui sont ses alliés au départ, je pense.
Alors, quelques mots aussi sur l'Afghanistan, le renseignement américain qui s'inquiète d'une capacité de frappe extérieure dès l'été prochain, l'été 2022, si les choses se dégradent sur place. Qu'est-ce que l'on sait de la capacité de projection de l'État islamique au Khorasan, qui est la branche afghane de Daesh ?
L'État islamique au Khorasan donc, a été implanté au tout départ à l'été 2014 et ensuite s'est véritablement développé, officialisé au début 2015. Et cette structure, effectivement, s'est investie au nord-est, dans le Nangarhar, vers Jalalabad, donc à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, et existe encore à cet endroit-là. Et s'était développé aussi au nord-ouest, vers Mazar-e-Sharif, à l'ouest de Mazar-e-Sharif, donc à la frontière avec l'Ouzbékistan. Et effectivement, c'est quelques centaines, voire un ou deux milliers, si vous voulez, d'hommes, de combattants. Donc, ce n'est pas grand-chose en termes d'effectifs. Et surtout, aujourd'hui, les combattants de l'État islamique sont quand même menacés par les talibans. Le problème, la problématique, c'est qu'ils ont aussi créé des réseaux et ont un réseau avec le Pakistan, évidemment, mais aussi avec certains pays d'Asie centrale, notamment le Tadjikistan. Tadjikistan, où on se souvient que le numéro 2 de l'antiterrorisme tadjik était parti donc en 2015 rejoindre les rangs de l'État islamique pour devenir ministre de la guerre de l'État islamique un an plus tard. Donc, au Tadjikistan, au Kirghizistan, vous avez très clairement des cellules agissantes aujourd'hui, avec des potentiels effectivement nouveaux. Et La capacité de projection donc, de cet État islamique au Khorasan, elle peut être en, je dirais, en amélioration constante et assez rapide selon que ce territoire se structure ou pas de manière réticulaire, c'est-à-dire en réseau. Je pense qu'il y a une menace qui est évidente. On va voir ce que les talibans, finalement, les talibans seraient peut-être les meilleurs pare-feu de cette montée de la menace, tandis qu'Al-Qaïda reste plutôt neutre et plutôt en relation avec les talibans, sans être évidemment eh bien, à la manœuvre. On peut compter sur cette concurrence, si vous voulez, de l'offre djihadiste ou islamiste à cet endroit-là pour pouvoir essayer de compenser une menace extérieure. En revanche, effectivement, la haine, et on parlera justement de ce moteur qui est quand même le moteur premier des attentats terroristes islamistes, la haine véhiculée à l'encontre, bien sûr, des Occidentaux, mais surtout des Américains, existe et a créé un trou, si je puis dire, qui est à la fois mémoriel par rapport à ce qui s'est passé lors de l'invasion des Américains en 2001, mais aussi durant toute cette présence américaine, vous avez une transformation tout de même de la société afghane qui s'est élaborée, avec une radicalisation de ceux qui ont voulu rester dans la tradition, je vais très vite, mais vis-à-vis des talibans, et ceux qui, au contraire, avec une petite classe moyenne, voire des CSP+, qui se sont développés dans le sens des Occidentaux. Et ça, ça a créé quelque chose tout de même. On ne peut pas l'oublier. Quand les gens disent « il ne s'est absolument rien passé en 20 ans », c'est absolument faux. Il faut regarder ce qui s'est passé. Il s'est produit des choses un petit peu plus fines, un peu plus profondément ancrées, mais qui sont en train de produire aussi des conséquences que l'on va évaluer. Et la menace terroriste, elle est extrêmement mauvaise pour les talibans actuellement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas incarner aujourd'hui, étonné qu'ils essayent de blanchir tout de même leur statut à l'international, ils ne peuvent pas permettre ou se permettre d'avoir des actions qui sont projetées de chez eux.
Ce sera probablement l'occasion de développement ultérieur. Anne-Clémentine Larocque, vous l'avez dit, hein, on avait le sentiment que la menace terroriste était aujourd'hui moindre, je parle de l'Europe, qu'en 2015, car il y a moins d'attentats. Et vous estimez-vous que le djihad mondial n'a jamais été aussi actif. Vous évoquez un nouveau Daesh avec une réorganisation de la mouvance djihadiste entre redéploiement de l'État islamique et appel d'Al-Qaïda a frappé l'Occident. Est-ce qu'on peut parler de changement de stratégie ?
De facto, ils ont une capacité d'adaptation qui est tout à fait claire et tout à fait visible à partir du moment où il y a quelque chose qui est touché, quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Et on l'a vu donc, encore une fois, je le répète, depuis la défaite donc, dans les petits villages de Barouz, au sud-est de la Syrie en 2019, là où les frères Klein, ceux qui sont la voix du djihad français, normalement seraient morts. Hein, on n'a pas de preuves encore tout à fait claires qui nous permettent de le dire complètement, mais en tout cas, ils seraient morts là-bas. Il y aurait eu un certain nombre de chefs qui seraient morts à Barouz, et ça a sonné le glas, la fin de l'État islamique en tant que proto-État, c'est-à-dire en tant que territoire. En revanche, des insurrections, tout de suite, se sont recréées en Syrie, en Irak. On a quand même au moins 3 attentats par semaine en Irak actuellement, générés depuis 2019 par l'État islamique. Vous avez une poche au nord-ouest en Irak qui est un territoire maîtrisé par l'État islamique en Irak. Vous avez aussi des actions encore aujourd'hui au nord-ouest de la Syrie en concurrence des autres groupes djihadistes, notamment le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui est une obédience au départ, qui était en lien avec Al-Qaïda, Front al-Nusra. Donc c'est une concurrence qui existe aussi, comme en Afrique subsaharienne, si vous voulez, sur le territoire syrien. En revanche, il y a une existence encore de combattants présents dans les lieux. Il y a encore des combattants en Libye, alors qu'on pensait qu'ils justement, ils avaient été neutralisés en 2016, puisqu'ils avaient pris la ville de Sirte, et ensuite, les troupes de l'Est, du général Haftar, les avaient déplacés. Tout ça pour dire qu'on a une capacité de séduction existante qui permet, en fait, encore une fois, d'avoir des effectifs qui sont mouvants et qui peuvent très vite se remobiliser. Et ensuite, vous avez aussi ce qui se passe dans les camps en Syrie, avec cette propagande, je dirais, gratuite, du fait que ces femmes et ces enfants, effectivement, restent dans ces camps et qu'ils soient vus aussi comme des victimes. Avant de mourir, entre guillemets, puisqu'il faut que ce soit prouvé, les frères Klein avaient diffusé à la fin du mois de décembre 2018 un vocal où ils appelaient justement le monde à regarder le statut de ces femmes. Ils avaient un peu anticipé justement que le statut des femmes dans les camps puisse être un statut qui soit porteurs et qui puissent attirer aussi la peine, l'empathie des musulmans du monde, justement, et donc d'attirer l'œil sur ces femmes qui se trouvent dans les camps donc, du Rojava au nord-est syrien. Et c'est vrai que les frères Klein avaient, dans ce cadre-là, compris qu'il y avait quelque chose à jouer par rapport à la propagande à venir, hein, sur les enfants et les femmes à protéger. Donc on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire une capacité à pouvoir analyser ce qui peut fonctionner et une diversification aussi des appels à rejoindre eh bien, cette cause.
On vous retrouve, Anne-Clémentine Larocque, après le journal. À tout de suite.
En sol majeur, géopolitique, Marie-France Chatin.
Notre invitée est Anne-Clémentine Larocque, analyste historienne pour la justice, spécialiste de l'idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales. Son dernier livre, Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam, paru aux presses universitaires de France. Anne-Clémentine Larocque, deux événements en France. Alors déjà, cette année 2022 s'ouvre sur la reprise du procès des attentats de 2015 en France. Et un événement qui peut paraître un fait d'hiver, tout à fait récemment, c'était en décembre dernier. On se rappelle bien sûr l'assassinat du professeur français Samuel Paty en octobre 2020, décapité par un jeune radicalisé qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Il y a un square près de la Sorbonne à Paris qui lui a été dédié avec une plaque sur laquelle était mentionnée victime du terrorisme islamiste. Elle a été, cette plaque, dégradée. La référence au caractère islamiste a été effacée à la bombe. Quelle lecture faites-vous de cette action et pourquoi finalement le caractère islamiste est-il si gênant ?
Je pense que c'est le mot islamiste qui pose toute la question, en fait, ce que ça révèle. C'est-à-dire que ce terme, déjà, il est pas nécessairement reconnu par tout le monde. D'ailleurs, dans la communauté des chercheurs, il y a des gens qui ne reconnaissent plus ce terme non plus. Je pense qu'il est très symboliquement important qu'il existe. Est-ce qu'il est compris par les Français ? Ce terme, c'est ça aussi que ça pose comme question.
C'est pourtant bien de terrorisme islamiste dont a été victime Samuel Paty.
Tout à fait. Mais est-ce que les Français comprennent ce que ça signifie ? C'est une vraie question. Les musulmans, les islamistes, les salafistes, les frères musulmans, je sais que les Françaises peuvent se poser beaucoup de questions par rapport à tous ces termes. Or, l'islamisme n'est pas l'islam. Mais l'islamisme, évidemment, on se rend compte avec le radical islam qui existe dans ce mot, il a évidemment une provenance qui vient de l'islam. C'est un détournement du discours musulman, de cette religion, de ce troisième monothéisme, à des fins politiques et sociales, avec une volonté tout de même d'imposer un système de valeurs uniquement ancré sur l'islam. Il y a une vision totalitaire, totalisante en tout cas, totalitaire quand on parle de djihadisme, comme l'État islamique derrière. Donc cette volonté d'effacer ce mot, c'est une volonté d'effacer, c'est une réalité que l'on doit regarder en face actuellement. Voilà ma lecture. Et c'est vrai que cet assassinat de Samuel Paty est absolument tragique, bien sûr, mais aussi tellement symbolique de ce qui se passe en France depuis des années, avec différents entrepreneurs qui ont activé les réseaux, qui ont activé la haine, puisque c'est ça, et qui ont fini aussi par mobiliser des gens qui ont dû se placer pour ou contre cet assassinat, un peu comme on a vécu en 2015, avec pour ou contre Charlie, est-ce qu'on est Charlie ou est-ce qu'on n'est pas Charlie ? Donc ça montre quelque chose de très important, c'est pas qu'un mot, et ce mot gêne évidemment, puisque ce mot est contesté. Quand vous allez dans le monde arabe et que vous dites islamiste, certains vous disent « ce mot n'existe pas en arabe », ce qui est vrai. Il est apparu au moment des printemps arabes aussi. L'islamisme, c'est une vision occidentale d'un phénomène politique et social qui a évolué dans le temps.
Le procès qui a cours depuis l'automne dernier, qui va se poursuivre en 2022, procès des attentats de 2015, qu'est-ce qu'il vous apprend, Anne-Clémentine Larocque, ce procès ?
Il nous apprend qu'un procès d'une telle ampleur est possible déjà, a été mis en place donc dans des conditions exceptionnelles, avec des moyens exceptionnels, avec évidemment des événements exceptionnels aussi. Évidemment, la dimension cathartique historique est tout à fait prégnante, mais derrière tout cela, moi, ce que je regarde, c'est d'une part le fait que, eh bien, au-delà des faits, hein, le droit doit être justement l'incarnation du procès et non pas la spectacularisation d'Abdeslam, dont on entend parler beaucoup trop souvent à mon goût. Eh bien, le droit, les qualifications et la manifestation de la vérité sont au centre du débat et doivent rester au centre du débat, c'est une chose. Deuxième chose que je peux regretter un petit peu encore, c'est que malgré l'intervention de chercheurs qui ont expliqué le contexte, etc., ce qui était très bien, on a quand même une carence, je pense, sur l'admission et la lecture de ce qu'est l'idéologie islamiste dans ce type de procès. On parle de djihad, on parle de faits, on parle d'événements, on parle de parcours, mais l'idéologie islamiste en tant que telle, elle fait partie intégrante, finalement, de ce phénomène actuel. Et elle est évidemment prise en compte par le droit français. Mais selon moi, elle devrait être encore plus exploitée,
c'est-à-dire
encore plus expliquée. En fait, il y a une problématique importante, c'est par exemple à l'audience, vous avez la personnalité, vous savez, des accusés qui doit être discutée, évidemment. Et il y a un volet hors religion ou avec religion de la personnalité. En réalité, ce n'est pas la religion pour moi, c'est l'idéologie, justement. La religion musulmane n'est pas l'idéologie politique islamiste. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être encore davantage martelé. Mais globalement, ce procès est nécessaire, est important, montre que la France aussi replace, encore une fois, son système de valeurs autour du droit et de la contradiction.
Alors, votre ouvrage, Le trou identitaire, je rappelle son titre, vous y dévoilez, Anne-Clémentine Larocque, l'existence d'une béance que vous appelez, donc trou identitaire. Vous parlez de quête de référencement à la culture arabo-musulmane, fantasmée, détournée, vous l'avez dit, par les entrepreneurs religieux. Vous qualifiez les djihadistes de mercenaires de l'islam qui investissent, dites-vous, le champ laissé par ce qui n'a pu s'imprimer tant dans le récit familial que dans la conscience nationale. L'islamisme, dites-vous, masque les trous présents dans l'islamité, fracturés, mal représentés en France, dans l'arabité encore abîmée par le passé colonial, et témoigne d'un désir de reconnaissance dans un monde ordonnancé par les autres. Vous parlez de non-dits et de lacunes de transmission mémorielle dans l'espace public comme privé, pour expliquer les succès de l'ordre salafo-djihadiste. Explication.
L'explication ne peut pas être en réalité tout à fait simple. C'est-à-dire que la complexité fait partie de cette compréhension du phénomène. On a plusieurs, en tout cas, champs d'analyse à prendre en compte en même temps. C'est pour ça que c'est complexe. C'est-à-dire qu'on a l'histoire des individus eux-mêmes qui s'inscrit elle-même dans une histoire effectivement internationale et nationale. Évidemment, la colonisation a un lien avec ce rejaillissement identitaire de certains partisans, en fait, donc de l'islamisme radical de troisième génération par rapport aux immigrés, si on parle des immigrés. Et en même temps, on a le mouvement des convertis, qui constitue un tiers de la population terroriste islamiste, hein, sur lequel je reviendrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une histoire donc, qui a meurtri des familles, donc des familles meurtries qui ont émigré en France. On retourne chez le colonisateur quand même, chez l'ancien colonisateur. C'est quelque chose quand même qui, en soi, est traumatique de toute façon. Avec des livres actuellement, des romans d'excellente qualité qui décrivent justement ces arrivées de familles immigrées dans les années 60 notamment, Alice Zeniter avec L'art de perdre, Lilia Hassen avec Soleil amer. Enfin, on a beaucoup d'ouvrages actuellement qui parlent de cette arrivée en France dans un nouveau système de référencement et d'identité. Avec ce moment un peu de honte qui est vraiment vécu par les familles, où les pères de famille perdent quelque part aussi toute l'envergure qu'ils avaient puisqu'ils doivent aller, je caricature, mais c'est quand même beaucoup le cas, à l'usine, parlant un français extrêmement moyen, dépendant des enfants pour comprendre. Les enfants deviennent les locuteurs privilégiés de la famille pour comprendre le monde dans lequel ils se trouvent et faire le lien entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la France. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a marqué profondément, sachant que, d'après ce qu'on a comme élément, il y a eu très très peu de discours. Abdeslam le dit. Mes parents sont arrivés, je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas exactement où. Il y a une espèce de flou artistique autour de ces arrivées aussi sur le territoire français ou en tout cas sur le territoire européen de ces populations qui se sont senties de toute façon avec quelque chose en moins en arrivant. Amin Malouf, grand auteur, grand penseur aussi, décrit cela et dit de toute façon une population qui a été dominée, colonisée, a en elle-même un manque, une carence qui fait qu'elle n'a pas confiance en elle. Je vais très vite. Et de cela va naître en fait un certain nombre de frustrations, mais aussi un esprit de revanche des générations qui vont survenir par la suite.
On en est là, dans cet esprit de revanche, au jour d'aujourd'hui.
Ah oui, on est dans ce passage à l'acte de la revanche, finalement. De ceux à qui, parce qu'attention, hein, il faut être clair, toutes les familles, évidemment, qui ont émigré n'ont pas de personnes qui sont nécessairement radicalisées dans leur sillon, évidemment. En revanche, quand ça arrive, on trouve des facteurs d'explication aussi sur cette rupture qui a eu lieu, sur cette impression, en tout cas, je le pense, de l'objet perdu que ces enfants d'immigrés essayent de retrouver. Ils font leur hijra. Il y a aussi le mouvement dans l'idée du trou identitaire, c'est-à-dire qu'on veut réussir à reprendre, à réattraper ce qu'on a perdu. Donc on veut une culture musulmane forte, un islam très bien ancré. La plupart en fait de ceux qui sont dans ce cas-là sont passés par leur pays d'origine avant de partir faire leur hijra en Syrie, en Irak.
Une explication ?
Justement, On va aller retrouver, essayer de retrouver là où ça a été, comme dirait
Freud. Reprendre racine.
Voilà, reprendre racine, repartir. Mais ça ne suffit pas, parce que finalement, l'islam qu'ils vont fantasmer doit être un islam totalitaire, comme justement eh bien, l'État islamique offre en Syrie et en Irak. Donc ça ne suffit pas, ils sont souvent déçus. Ah, c'était pas assez puissant, l'islam n'était pas assez présent au Maroc, ou en Tunisie, ou en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui laissent tomber aussi l'islam, qui ne voient pas le vrai islam. Donc on a voulu partir en Syrie, en Irak ou en Afghanistan. Mm. C'est une réappropriation, je dirais, symbolique et fantasmée de ce qu'on a pu perdre. J'irai plus loin, c'est la dernière chose importante aussi, c'est de dire aussi que finalement, quand on regarde bien ce qu'ils font par le surreligieux, par ce désir furieux justement de sacrifice que Fethi Ben Slama d'ailleurs décrit dans un de ses ouvrages, eh bien derrière, on veut récupérer l'identité, la culture à laquelle on est censé appartenir au départ. Au départ quand ? Avant l'immigration. Voyez.
Alors, mais juste un petit décrochage. L'argument de la colonisation, il tombe complètement avec l'assassin présumé de Samuel Paty, qui lui était un Tchétchène.
Alors attention, les trous identitaires sont nombreux et diversifiés. Là, on parlait véritablement des cas de binationaux ou de Français d'origine maghrébine en lien avec cette histoire-là. Effectivement, il faut regarder toutes les histoires, selon aussi, bien sûr, l'origine des personnalités qui passent à l'acte. Vous parlez du Tchétchène, effectivement, qui a assassiné Samuel Paty, mais finalement, si on regarde bien, les derniers attentats, les quatre derniers attentats, ont été effectivement commis par des migrants. L'un est tchétchène, l'autre pakistanais, et vous avez donc deux Tunisiens. Et si on prend encore l'attaque d'avant, c'est un Soudanais. Donc vous voyez la diversité. Pourquoi passer à l'acte en France ? La France, symboliquement, incarne des valeurs, un système actuellement qui, effectivement, est dans la ligne de mire du djihadisme international. Pourquoi ? Parce que la France résiste aussi par ses valeurs de laïcité. On est à l'opposé, si vous voulez, de la djihadisation, ou en tout cas de la position de l'islam au centre et au cœur de la société, sachant qu'on incarne une société laïque qui va défendre effectivement des principes laïques, laïcistes même parfois pour certains. Et donc, on est vraiment dans une opposition de modèle. L'éducation occidentale incarnée par la France est à atteindre. Un professeur d'histoire-géographie a été décapité vers 17h sur le territoire national en pleine rue. C'est pas rien comme symbole. C'est pas rien non plus que le président Macron ait aussi, eh bien, bien évidemment, fait cette démarche de cérémonie à la Sorbonne, qui est le symbole, très typiquement, évidemment d'ailleurs, de l'humanisme et de tout ce qu'on peut justement penser de la France et des Lumières.
Alors, Anne-Clémentine Larocque, il y a une étude qui a été récemment publiée et Le Monde s'en est fait l'écho sur les profils des djihadistes français. Étude qui, pour la première fois, porte sur l'ensemble des hommes actuellement incarcérés pour terrorisme islamiste et qui permet de dessiner un portrait robot du djihadisme en France, avec pour point commun un milieu urbain, la précarité économique, mais une famille stable, alors qu'on pouvait penser que précisément c'était des familles peu stables qui pouvaient être un terreau plus facile pour ce type de personnalité. Un faible niveau d'études et un endoctrinement sur Internet, mais également... Il me semble que c'est un point commun avec votre livre, c'est la trop grande présence des mères. Alors, là aussi, une explication.
Alors, plusieurs choses. Vous avez tout à fait raison de relever la présence de cette étude. Alors, on a beaucoup d'études actuellement sur les profils de djihadistes. L'année dernière, vous aviez donc l'étude de l'Institut Montaigne d'Hakim El Karoui, les militants du djihad. Hugo Micheron a fait aussi une étude à propos, en tout cas, des prisons avec un échantillon beaucoup plus réduit, mais en 2016, qui avait été aussi très marquant par rapport à ce qu'il révélait. Là, effectivement, on a Xavier Crétier, Romain Cesse, qui ont produit pour l'administration pénitentiaire cette étude autour de 353 dossiers. Attention, cette étude, elle provient aussi des synthèses des CAIR, c'est-à-dire des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Donc, il y a déjà quand même un angle qui existe. Bon, il y a plusieurs profils qui ont été relevés, il y a 7 profils, voilà, c'est aussi très sociologique. Moi, ce que je vois, effectivement, c'est qu'il y a 2 points communs, en effet, avec ce que j'ai pu développer de manière empirique dans mon livre, en écoutant, en étudiant dans les audiences, particulièrement eh bien, ce que disent les terroristes islamistes, femmes comme hommes, là ce sont des hommes, effectivement, ça peut ça doit être montré, puisque vous aviez une étude de M. Bonelli aussi et M. Carrier qui avait évoqué cette idée, mais qui n'était pas allée jusqu'au bout. Deux tiers ont grandi, d'après l'étude de Xavier Crétier, dans des familles assez ou très stables. 17% ont grandi dans des familles monoparentales. Et ça, c'est quelque chose que je relève quand j'évoque les mineurs. J'évoque trois cas de mineurs qui se sont radicalisés dans des familles stables, économiquement, je veux dire, viables, et surtout avec des fratries donc existant avec peu d'instabilité. Mais surtout, moi, là, j'ai développé ça, c'est que ces familles que je décrivais avaient coupé, étaient devenues athées pour la plupart des parents, justement, qui élevaient ces enfants, qui se sont radicalisés.
Donc, rupture avec la religion
et la culture aussi. Il y avait évidemment des musulmans, mais il y avait aussi une juive et un kurde activiste, dans ce que je décris dans l'ouvrage. Alors, attention, hein, c'est trois familles que je décrivais, donc ça ne fait pas une tendance. Mais en tout cas, j'avais relevé cette idée qu'effectivement, les dysfonctionnements familiaux ou les familles complètement défaillantes et dysfonctionnelles n'étaient pas nécessairement le modèle. Bon. Par leur étude, ils prouvent que ceux qui ont été incarcérés, attention, hein, c'est ceux qui ont été incarcérés pour le coup, eh bien, disposent de familles stables, voire très stables. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'image d'Épinal de la famille Mera doit être aussi réévaluée
et mise
à distance. Ah ben, une famille complètement dysfonctionnelle où la mère Zoulira Aziri a effectivement dû éduquer ses cinq enfants dans des conditions de précarité extrême. Le père est parti, il y avait énormément de violence du père contre la mère, mais aussi des frères les uns contre les autres, de l'alcoolisme pour l'un, etc. Et évidemment l'islamisme radical qui arrive dans cette famille et qui séduit pour combler, je dirais, ces trous de la stabilité, hein, avec des problématiques qui justement me font aller sur la deuxième chose que vous avez dite, c'est la présence, la trop grande présence, d'après le rapport en tout cas, des mères. J'ai développé dans mon livre un chapitre qui s'intitule « La fusion mère-fils, angle mort du djihadisme ». C'était volontaire évidemment d'aller sur ce sujet qui n'a pas été très traité en fait, parce que parler de la mère c'est compliqué. C'est quelque chose qui est encore assez tabou, finalement, dans nos sociétés.
Mais en quoi cette fusion mère-fils peut générer cet extrémisme dans le...
C'est vraiment la fusion. Il ne s'agit plus d'amour maternel. Là, on est dans quelque chose de l'ordre de la fusion, avec, je pense, une répercussion de frustration très forte qui, par la maternité et par l'arrivée d'un fils notamment, mais attention avec les filles, il s'agit encore d'autres choses, eh bien, on va avoir effectivement une sorte de projection de ces mères sur leurs fils qui, selon moi, ne deviennent jamais des hommes. Le djihad armé leur permet d'aller chercher cette virilité. Dans l'étude, il parle du profil viriliste. C'est très intéressant. Le virilisme est au centre aussi, la virilité est au centre de notre problématique djihadiste. Effectivement, devenir un homme, c'est devenir aussi un homme aux yeux de la société et aussi aux yeux de sa mère. Et cette mère, elle existe, hein, la Oumma, ça vient du terme mère en arabe, et cette Oumma, elle existe à l'origine même, donc effectivement de la religion musulmane, mais aussi par détournement de ce que l'idéologie djihadiste en dit. Et effectivement, on a des mères qui vont être fusionnelles et qui vont, au début des procès, moi je les observais, et elles ne viennent plus, beaucoup moins d'ailleurs dans les procès, où on les voyait enamourées de leur fils qui était dans le box et qui allait être traduit quand même pour terrorisme islamiste devant une cour d'assises ou dans une audience correctionnelle. Il y avait quelque chose de l'ordre de vraiment de l'admiration qui existait dans leurs yeux. On a plusieurs exemples. Je développe deux grands exemples dans mon bouquin. C'est évidemment la mère Mera avec Abdelkader Mera pendant l'audience et Christine Rivière vis-à-vis de Tyler Villus, qui a été condamnée donc à perpétuité dernièrement et qui est effectivement une mère qui s'est convertie pour son fils, convertie à l'islamisme radical, qui est allée en Syrie quand même, qui portait une ceinture en Syrie, qui a essayé aussi de le mettre en lien avec d'autres femmes, des épouses, etc. Là, on est vraiment dans une fusion très particulière. Je laisse le lecteur découvrir cette histoire qui est quand même assez incroyable. Et c'est le cas de nombreuses familles dans les dossiers, effectivement, des terroristes islamistes.
Donc un élément tout à fait intéressant, cette fusion mère-fils, angle mort du djihadisme que vous évoquez, Anne-Clémentine Larocque, et c'est la fin de cette émission. En tout cas, je retiens ce que vous évoquez, c'est la persistance du silence dans certaines familles d'émigrés, devenus immigrés, une certaine honte d'avoir quitté son pays d'origine, doublée souvent d'une raison contraignante, un motif économique, politique ou familial. C'est un angle d'analyse tout à fait intéressant. Merci, Anne-Clémentine Larocque, Bloch, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam. Je rappelle aussi que vous êtes analyste, historienne pour la justice et spécialiste de l'idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À demain.